Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans l'émission quotidienne de RFI qui vous parle de football, Radio Foot International. Et nous allons commencer aujourd'hui eh bien, par une cérémonie qui s'est déroulée hier soir.
The best one for me is Mohamed Salah, Sadio Mané, but he's not here.
Et oui, et donc the best is Lionel Messi. Malgré Samuel Eto'o que vous venez d'entendre et beaucoup d'avis similaires à travers la planète football, c'est encore la Pulga argentine qui a été distinguée comme meilleur joueur de la saison. Et aucun joueur africain ne figure dans le 11 type de ce prix. Radio Foot vous expliquera ou tentera de vous expliquer pourquoi cette anomalie. L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, est distingué. Son gardien, Alisson Becker, aussi. Enfin, honneur à la meilleure joueuse, l'américaine Megan Rapinoe, la capitaine des championnes du monde, qui a remercié à sa façon, vous l'entendrez, en dénonçant les injustices. Quelle valeur accorder d'ailleurs à ce prix The Best ? N'y a-t-il pas trop de prix individuels pour tous ces footballeurs ? Nous en parlerons. La Première Ligue et les Reds bien accrochés en tête de la compétition en Angleterre. Les Citizens toujours derrière, toujours à 5 points, alors que les Mancuniens de Solskjaer dérivent. À Chelsea, pas ou moins de raisons, selon nous, d'avoir le blues. Enfin, nous évoquerons ces clubs d'Angleterre, eux aussi victimes de Thomas Cook, le voyagiste historique en faillite. Et nous en parlerons et bien notamment avec Salim Bongali de RMC Sport. Bonsoir.
Bonjour Annie, bonjour.
Bonjour, pardon, je vous dis bonsoir parce qu'hier on vous a vu toute la soirée.
C'est vrai.
Et du coup on a l'impression qu'on y est encore. Dominique Sévrac du Parisien.
Bonjour,
bonjour.
Annie, quand j'étais petit, Best c'était un magazine de rock. Et maintenant que je suis vieux, Best c'est, bah, c'est vous en fait. C'est vous Annie.
C'est moi qui ai le prix.
C'est vous, bon, c'est vous The Best.
Non, ça va peut-être être contesté tout de suite sur les réseaux
sociaux.
Je suis
le collège unique et je vote pour vous.
Merci, c'est gentil. Patrick Juillard, bonjour.
Bonjour Annie. Le seul Best, c'est George Best, évidemment.
Mm-hmm, bravo, oh là là, ils sont en forme, hein, nos intervenants aujourd'hui. Bonjour Olivier Pron.
Dominique Sévrac qui est un faillot.
C'est sûr qu'il n'y a pas Olivier Pron le Best, hein, ça c'est sûr.
Ni le faillot.
C'est Patrick Juillard, votre site, vous, Foot 365 Afrique, n'est-ce pas ?
Absolument, absolument, avec un article sur le Maracana aujourd'hui, en une du site.
Le foot maracana, voilà. Oui, qui commence, on a entendu Charlemagne hier.
Moi, c'est the worst.
Méfiez-vous, hein, méfiez-vous, il va y avoir des... Notre stagiaire aussi, Ralph Samoury, avec nous aujourd'hui. Bonjour, Ralph.
Bonjour, Annie, bonjour.
À Radio Foot, c'est parti.
The best FIFA men's player of the year, Lionel Messi.
Lionel Messi. It is history in the making for the Argentinian ace.
The best women's player is Megan Rapinoe.
Megan Rapinoe. This caps a perfect season for the American.
The best coach is Jürgen Klopp.
Mozart, logiquement, puisqu'hier soir, nous étions à la Scala de Milan. Une grande soirée avec tapis rouge, robe longue et strass, avec aussi smoking et paillettes, et tout cela orchestré par la FIFA. Gianni Infantino en maître de cérémonie de la fête annuelle du football. Football version FIFA, bien sûr. Tout le monde était donc sur son 31, mais c'est le palmarès qui nous laisse un peu pantois. Que Messi soit encore le meilleur joueur de la saison, qu'il n'y ait pas d'Africain dans le 11 type, nous allons en parler. Mais avant tout, The Best se situe dans l'échelle du temps, on va dire, entre les récompenses de l'UEFA qui ont eu lieu il y a quelques semaines et le Ballon d'Or qui aura lieu le 2 décembre prochain. Et on a envie de s'interroger, ce matin on s'est beaucoup interrogé dans le bureau de Radio Foot International, est-ce que trop de prix ne tue pas la valeur de ces récompenses individuelles assez pompeusement remises ? Dominique Sévrac.
Oui, il y en a beaucoup, effectivement, mais elles ne se cannibalisent pas, puisque pour moi, et je pense que c'est un avis partagé par beaucoup, le plus beau prix reste le prix France Football, le Ballon d'Or France Football, le meilleur joueur du monde à la fin de l'année. Et je pense que c'est le Graal que tout le monde veut avoir, c'est là où...
Que les joueurs veulent avoir.
Que les joueurs veulent avoir, et je pense que les médias mettent la lumière aussi là-dessus. Je pense pas que le prix The Best, qui est nouvelle dénomination du prix FIFA, en fait... et soit vraiment encore entré dans l'histoire. Donc c'est juste qu'une multiplication de prix parce que le football, c'est un business. Mais bon, on dit ça aussi dans le cinéma. Hein. Il y a les Césars, il y a les Oscars, et puis il y en a plein des prix individuels, le prix Romy Schneider. Voilà, on récompense toujours les
acteurs. Dans chaque festival, enfin, voilà, aussi.
Dominique, on peut pas comparer le cinéma et le football dans un film.
Si c'est un art, les deux sont un art.
Non, mais ça c'est
un business aussi.
Mais dans un film, on a des performances d'acteurs qui sont dictées par une direction d'acteurs.
Parfois,
hein. Non, oui, peut-être, mais le foot est un sport qui reste un sport collectif, un sport d'association. Donc les distinctions individuelles dans le foot sont beaucoup plus une anomalie que dans le cinéma. Alors le Ballon d'Or, France Football a une légitimité historique. Mais c'est quand même, il y a une multiplication de prix qui font perdre de la valeur à toutes ces statuettes.
C'est le sport le plus individuel.
Si vous prenez les Oscars, les Césars, les Goya et toutes les distinctions, elles sont remises par un pays, par la France, les États-Unis, l'Espagne et ainsi de suite. Toutes ces distinctions.
Un pays, c'est un collège aussi. Là, quand on va vers les collèges de votants.
Oui, mais représentant le cinéma d'un pays en particulier. On peut très bien comprendre qu'il y ait que soit remis le prix du meilleur joueur de Ligue 1, de Première Ligue, de Serie A et d'un championnat. Mais comme ça, sur une saison, ça me paraît beaucoup plus contestable. Et surtout, on en parlera après, il y a un flou total sur les critères d'attribution de ces prix.
Salim Bongali, vous qui étiez aux premières loges à la Scala de Milan.
Oui, c'est vrai. Alors, je rejoins les deux argumentaires, oui et non. Je m'explique. D'un côté, effectivement, il y a une multiplication de prix, c'est un fait. Enfin, en tout cas, là où à un moment donné, on en avait qu'un seul, on a deux, trois. On ne sait plus, entre le prix UEFA qui a été remis il y a un mois près, pour Virgil van Dijk, justement. Et là, ce prix-là, au final, les différences, on ne comprend pas trop. Mais d'un côté, c'est juste l'Europe, de l'autre, c'est le monde. Mais au final, c'est le même podium, ou quasiment le même, hein, si je ne m'abuse, c'est le même podium, même d'ailleurs. Au final, en tout cas, l'ordre est différent. Donc là, d'un côté, de l'autre côté, la FIFA veut avoir son prix aussi par rapport à l'UEFA.
Elle avait son prix. Après, elle s'était associée avec France Football.
Exactement.
Et elle est revenue à son prix.
Mais d'ailleurs, et c'est aussi une concurrence qui aujourd'hui existe, on va le dire très clairement, entre d'un côté la FIFA qui veut cannibaliser pour le coup, je pense, le prix France Foot. Parce qu'il veut, en tout cas, décrédibiliser, je parle bien au niveau de la FIFA, veut décrédibiliser le prix France Foot. Moi, je prends en exemple.
Le mariage s'est mal passé, hein.
Oui.
Parce qu'ils sont mariés.
Ouais, tout à fait.
Ça a duré 5 ans.
Et il y a eu un divorce.
Et il y a eu un divorce et ça s'est mal passé.
Exactement.
Et maintenant, on se venge.
Mais plus que ça, mais ne serait-ce que via le parterre d'invités qui avait lieu, qui était présent hier à Milan, un parterre beaucoup plus impressionnant que, par exemple, celui qui était présent la saison dernière pour le France Football, le titre, le Ballon d'Or France Foot, où il y avait déjà beaucoup de monde. Mais là, hier, c'était invraisemblable d'avoir tous ces noms réunis. Et je parle d'anciens noms aussi. Dunga qui était présent, on ne sait pas pourquoi. Véron qui était là.
Ronaldo.
Et tous les grands noms qui étaient là, juste pour montrer qu'aujourd'hui, le prix FIFA est plus the best.
Enfin, réunit plus de monde.
Toute la soirée était un peu bling-bling.
Ah, on avait l'impression que c'était festival de Cannes.
L'opéra pour les nuls.
C'est Festival de Cannes, bien
même
sûr.
Même quand on a eu tout à l'heure la flûte enchantée, vous avez passé l'extrait, les costumes derrière des danseuses étaient moitié des footballeuses, moitié des costumes. C'était ridicule.
On se serait cru dans une émission de Berlusconi dans les années 80.
Ah ouais, ouais, on se demande ce que Ruth Gullit est venue là. On a eu Capello qui est venu nous parler de son amour de l'opéra. Vraiment passionnant. C'était d'un ennui profond. Et moi, je pense plus que The Best, qui est quand même d'un pompeux, mon Dieu, d'appeler ça. On devrait venir à quelle est la meilleure tête de gondole du football mondial.
Si
c'est ça le vrai prix. Parce que finalement, à l'arrivée, c'est ça. Quelle est la meilleure tête de gondole?
Olivier, juste si vous parlez des cérémonies même, puisque effectivement, il y a le côté pompeux. L'Union pas les choses, c'est un fait. Après, pardon, mais toutes les cérémonies au final sont pompeuses et beaucoup trop, hein, beaucoup trop longues, parfois beaucoup trop agaçantes, chiantes, passez-moi le terme. France Foot, c'est le cas.
Toujours avec des gens qui savent pas quoi y faire. Ruud Gullit savait pas quoi y faire et la femme qui l'accompagnait n'était pas très à l'aise non plus.
Et pourtant, c'est une présentatrice en Italie, hein. Comme quoi, c'était Madame Buffon d'ailleurs, qui était.
C'est Madame Buffon.
Madame Buffon.
Enchantée, madame.
En tout cas, il y a donc eu cette cérémonie hier. Le palmarès, allons-y. Lionel Messi, meilleur joueur de la saison 2018-2019. Est-ce que ça vous semble logique?
Non.
Patrick.
Pardon, j'ai Patrick coupé Julia. Le sifflet non. à Dominique.
Non, il avait l'air dubitatif.
Juste au moment où vous alliez lui donner la parole.
C'est pas logique.
Je suis allé voir le règlement du prix pour comprendre.
Allons-y.
D'après le règlement qui tient sur quelques lignes, les jurés, les membres des différents collèges de votants.
Allez-y, finissez.
C'est pas des jurés, d'accord.
Non, mais tout à fait.
Récompense les joueurs selon leurs accomplissements.
Oui, c'est ça.
Accomplissement.
Achievement.
Voilà, achievement en anglais, mais bon, ici on est sur une radio francophone. Qu'est-ce que c'est qu'un accomplissement voilà, quand on est footballeur? Est-ce que c'est de cumuler tous les records individuels? Alors Messi, on peut en donner plein. Pichichi, il passe le cap des 600 buts avec le Barça. Ouais. Il fait sa 10e saison à plus de 50 buts. Il est désigné meilleur joueur de la dernière Ligue des Champions. C'est le meilleur tireur de coups francs des 5 grands championnats. Il est soulier d'or européen. Tout ça, c'est vrai. Mais
les
ça, ce sont c'est des stats. Après, si on pense que l'accomplissement, c'est de gagner des trophées, Messi, il a gagné en tout et pour tout la Liga, il a perdu la Coupe d'Espagne, il a été éliminé en Ligue des Champions, il a encore échoué en Copa América. Prenez les joueurs de Liverpool, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus, et notamment Sadio Mané, qui a aussi gagné la Super Coupe européenne, qui a été le meilleur joueur de la finale. Donc tout ça est une injustice profonde, à moins qu'on considère que le foot, c'est un sport de stats comme les sports américains, et qu'il suffit d'être de cocher des cases. Et ça, c'est pas ma vision du foot.
On avait presque l'impression que la FIFA voulait récompenser Messi avant qu'il soit trop tard, parce que depuis que ce prix existe, et c'est très récent, il n'avait pas encore été récompensé.
3 ans, enfin là c'était la 4e édition, les 2 premières c'était Cristiano, la 3e, la saison dernière c'était Modric. Juste quand même, parce que on dit effectivement, quand on voit le titre remporté par Messi, on crée au complot, on dit c'est pas normal, ça aurait dû être Van Dijk, sur les 3, hein, j'entends qu'il était encore finaliste, voire encore une fois la présence de Sadio Mané, Mohamed Salah et d'autres. Mais sur les 4 collèges de votants, je rappelle les 4 collèges qui sont à égalité à poids équivalent, les capitaines de sélection, les sélectionneurs, les journalistes, un journaliste par pays, et les fans qui étaient inscrits sur le site FIFA et qui pouvaient voter. Juste, sur les 4 collèges, 3 ont mis Messi devant. Les sélectionneurs, les capitaines de sélection et les fans. Donc, à un moment donné, seuls les journalistes, d'ailleurs, ont mis Van Dijk devant Cristiano et Messi.
On peut pas leur en vouloir, les critères sont flous.
Les critères, juste parlent de...
C'est pas normal.
Alors juste, pour être un petit peu plus précis, permettez-moi, Annie, sur les critères, ils évoquent les performances, le mot est utilisé, les performances en anglais, les performances sur le terrain et le comportement sur et à l'extérieur du terrain.
Voilà. Mais je sais pas pourquoi vous avez perdu du temps à aller voir le règlement, parce que personne ne le fait. Votent ne regardent pas le règlement.
Je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui votait.
En plus, après, performance, c'est des mots, accomplissement, c'est des mots tellement vagues. Vous y mettez ce que vous voulez derrière.
Exactement.
Donc, il faut quand même dire à un moment donné de l'émission que Messi soit le meilleur joueur du monde selon la FIFA, selon le prix, c'est pas un scandale.
Non.
Que mettre des buts en football, c'est aussi ce qu'il y a de plus dur. Et ça, c'est pas des stats. Le c'est une action collective, c'est une action individuelle, mais dans un collectif. C'est l'accomplissement du football. Pour moi, le jeu de football, c'est au départ, on est dans le rond central, et on va essayer d'aller dans le camp adverse, marquer un but. On peut essayer de le marquer depuis son camp.
Il a plus son côté du foot. Hein,
quoi. Non, mais on peut essayer de le marquer depuis son camp, mais ça sera beaucoup plus difficile. Et puis on risque de quand même de passer du temps à essayer.
Toivonen l'a fait. Hein.
Oui, Memphis Depay, Nabil Fekir, beaucoup de joueurs l'ont fait. Pelé l'a fait. Mais
Jean-Pierre Bossert aussi.
Voilà, je pense qu'il vaut mieux essayer d'aller construire une action pour aller marquer. Je trouve que le but, marquer des buts, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus émouvant.
Donc vous auriez voté Messi.
Non, je dis que c'est pas un scandale. Si vous me dites que c'est Sadio Mané qui l'a, je vous trouve toutes les mêmes raisons pour vous dire à quel point c'est beau que ça soit Sadio Mané.
C'est bien la meilleure tête de gondole, c'est pas le meilleur joueur.
Il y a tellement de choses qui rentrent en compte, Olivier. Il y a tellement le côté glamour, le côté marketing, le côté connu.
Ce vote-là montre que jamais un défenseur ne l'aura. Jamais.
Ou jamais plus.
Certainement.
Ah oui, mais là, je parle du prix FIFA.
Il y a 20 ans, il l'aurait eu. Oui. S'il avait existé ce prix. Mais le football est devenu un truc YouTube-esque où on ne circule que les actions de classe ou les buts et pas les tacles, pas les retours de Van Dijk, du diable au Vauvert, comme on disait avant, quand il rattrape un Kun Agüero et qui fait le plus beau tacle du monde.
Pour revenir au cinéma, il y a le meilleur acteur, mais il y a aussi le meilleur second rôle. Alors on pourrait faire meilleur défenseur, meilleur milieu de terrain.
Le second rôle n'a pas moins de mérite.
Maintenant, il y a le meilleur gardien.
Exactement.
Mais justement, avant qu'on en vienne aux détails, et nous on s'est beaucoup intéressé, alors c'est un prisme RFIS que vous en conviendrez, mais on s'est beaucoup intéressé à l'Afrique.
Mais on sait qui nous écoute.
Évidemment,
surtout.
Oui, et au vote des Africains. Mais avant d'aller voir ce vote que Olivier a passé à la loupe avec notre réfé, eh bien, écoutons quelqu'un qui s'était déjà élevé contre la récurrence du duo Messi-Ronaldo sur ses podiums depuis si longtemps, et dans les possibles lauréats, et c'était Habib Bey qui avait alors mis un carton rouge.
Carton rouge contre ce prix UEFA, pour une raison, de dire que l'Afrique existe, que les 3 meilleurs buteurs du championnat anglais ont été 3 Africains, que l'Afrique fournit aujourd'hui à l'Europe des joueurs d'exception, Georges Weah, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Touré, aujourd'hui Salah, Mané, et qu'il est pour moi scandaleux de ne pas voir ces joueurs-là dans les titres majeurs, et je peux déjà vous annoncer Rappelez-vous de cette phrase, on en parlera lorsque le Ballon d'Or sera décerné. On regardera le classement de Mohamed Salah, on regardera le classement de Sadio Mané et on regardera le classement des Brésiliens, des Argentins, des Anglais, des Français. Et ce jour-là, vous pourrez considérer que ce continent africain est complètement mésestimé et qu'aujourd'hui, c'est de la victimisation, mais on part avec 5 étages de retard par rapport à tous ces joueurs-là. Et malheureusement, il faut que nous, on puisse le dénoncer. Et je le dénonce pas parce que je suis africain, je le dénonce parce que le football a besoin du continent africain pour fournir des joueurs d'exception. Et je trouve que ne pas les voir dans ces trophées majeurs, surtout le remporter à l'image de Sadio Mané, pour moi, c'est scandaleux.
Alors Habib dit, il faut que nous, alors nous les Africains, nous le dénoncions.
Bah, il faudrait peut-être alors, surtout, oui. Qui balaye devant leur porte. Voilà. Habib, il devrait aller voir le détail du vote.
Habib ne veut pas dire non plus que tous les Africains doivent voter que pour des Africains. Hein, c'est pas ça.
Non,
mais quand ils peuvent être mis en valeur, et là, il y en a.
Avant de dénoncer, il faut avoir des arguments pour. Et il faut être irréprochable soi-même. Et le vote des Africains, de tous les pays africains, le vote du continent, il est loin d'être irréprochable.
Déjà, il faut avoir voté.
Voilà. Et on lit énormément depuis hier de réactions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On crie au racisme, les Blancs votent pas pour les joueurs africains et tout ça. Bah nous, on s'est intéressé, Annie, je cherchais mes lunettes, on s'est intéressé au vote des Africains, collège par collège. Les capitaines, c'est important les capitaines, il y a des grands noms chez les capitaines. Il y en a que 34 sur 52 qui ont voté déjà. 34 sur 52 qui ont voté. Et sur les 34 qui ont voté, il n'y en a que 7 qui ont placé Salah ou Mané premier. Parce que ça rapporte plus de points, c'est ça qui compte, hein, qu'ils les mettent en deuxième ou en troisième, c'est moins de points. Mais il y en a que 7 sur 5, sur 34. Charles Caboret pour le Burkina Faso, il a voté Ronaldo, Van Dijk, Messi, panafricain. Prince Onyango, pareil. Pierre-Emerick Aubameyang, on en parle. Pierre-Emerick Aubameyang, qui devrait y être. Bah lui, il a voté Ronaldo, Hazard, Messi. André Ayew, pareil, il n'a pas voté pour un Africain, il a voté Ronaldo, Messi et Hazard. Donc voilà, ça. L'Égypte, par exemple, Salah n'a pas voté du tout.
Alors pourquoi c'est possible ça? Comment
ben
un prix
ça, je ne sais pas.
C'est pour ça. Non, mais déjà, il a pas voté. Il y a une faille dans le règlement.
Ben, peut-être.
C'est-à-dire que par exemple, les votants à France Football, il y en a pas un dont le vote ne parvient pas à la rédaction.
Ben, voilà.
Et d'ailleurs, on connaît un certain Franck Simon qui, quand ils n'ont pas voté,
ben, les relance.
Les relance et les appelle.
Là, par exemple, première faille dans le règlement. Peut pas y avoir quelqu'un qui ne vote pas.
Chez les sélectionneurs, 36 sur 52 seulement. Et sur ces 36, 10 ont placé Salah ou Mané. En général, Mané en première position pour le Burkina Faso, Messi, Van Dijk, Mbappé, le Gabon, tiens encore, le Gabon font un sans faute, hein, de toute façon, il n'y a pas un Africain. Les trois collèges de votants, il n'y a pas un Africain. C'est Neveu, Patrice Neveu, Ronaldo, Messi, Hazard, Garnot Rohr, Dieu sait si on l'aime, notre Garnot. Mbappé, bon, bah, c'est son choix, hein, il met Mbappé en 1, Van Dijk et Hazard. On peut pas dire qu'il soit fulgurant sur ce vote-là. Voilà, donc finalement, le top du top chez les sélectionneurs africains, c'est Djabel Belmadi. D'abord, lui, il termine au pied du podium en tant que sélectionneur. Il est quatrième, juste derrière le trio là, donc Klopp en deuxième, Pep Guardiola et en troisième Pochettino, Jamel Belmadi, Salah en 1, Mané en 2, Van Dijk en 3. Et on termine juste, Annie, pour les journalistes, hein, parce que les journalistes en général sont eux, on le sait, dans le collège qui a élu Lionel Messi, sont les journalistes ont voté pour Van Dijk, les trois autres pour Messi. Alors là, il y a 43 votants. Ça, c'est plutôt pas mal, 43 sur 52. 14 de ces 43 votants ont placé un Africain en 1, essentiellement Sadio Mané. Mais par exemple, à Madagascar, on ne sait pas qui c'est. Au Mali, on ne sait pas qui c'est non plus, Mané. Au Gabon, bah là, on met Messi, Ronaldo, Hazard. Au Cameroun, pareil, Sadio Mané n'existe pas dans le vote.
Moi, j'aimerais élargir ce qu'a dit, ce qu'on a écouté d'Habib. C'est l'allergie aux recruteurs des grands clubs européens. C'est-à-dire qu'à part Galagay qui est arrivé aujourd'hui à Everton ou Paris Saint-Germain, à part Koulibaly à Naples et les deux Africains de Liverpool, quels sont les grands clubs qui ont des joueurs africains?
Il y a que Arsenal et Aubameyang, quoi.
Non, mais les grands clubs de Ligue des Champions, par exemple. Est-ce que les recruteurs pensent à des Africains aujourd'hui? Quand on voit le début de saison de Galagay, peut-être qu'il va se rater au Paris Saint-Germain. Mais pour l'instant, il est prodigieux avec le Paris Saint-Germain. Et quand il était à Everton, tout le monde savait qu'il était déjà très fort. Ou à Lille. Donc c'est quand même pas un hasard. Donc c'est Leonardo, peut-être, qui y a pensé, ou Tourelle, pensait que c'est un joueur que Tourelle voulait. Comment se fait-il que dans les clubs qui jouent la Ligue des Champions, il y a aussi peu d'Africains, alors que le football africain a des grands joueurs. C'est donc qu'il y a un autre.
Ça, je ne sais pas, mais.
Donc, il faut prolonger.
Il apparaît clair que pour tous les votants, la performance de Sadio Mané, c'est quand même pas rien d'être vice-champion d'Afrique, d'être en finale de la CAN. Et Dieu sait si pour tous les observateurs hors continent, il n'y a pas plus belle finale qu'Algérie Sénégal. Je dis pas qu'elle était belle sur le fond, papier, mais sur la forme, mais plus belle affiche, c'est quand même dingue. Bah apparemment ça compte pas. Mais même si, encore une fois, si l'Afrique n'est pas capable, on se souvient pour la Coupe du monde 2026, on a parlé ce matin, 12 pays africains n'avaient pas voté pour le Maroc.
Mais ça ne suffit
si
pas
l'Afrique
pour
elle-même n'est pas solide, ça ne suffit pas, mais ça peut donner un élan.
Oui.
En tout cas, voilà, c'est un constat juste pour
parce qu'en
pour,
plus c'est réversible
calmer
comme
un
argument,
peu
on va parler de
nos auditeurs africains qui nos auditeurs africains qui ont tendance à dire on vote pas. L'Afrique ne vote pas elle-même et en grande majorité pour ses enfants.
Pour surtout ses meilleurs.
Mais pardonnez-moi, alors parce que là vous avez pris le bon exemple avec les capitaines, les sélectionneurs, notamment ces
exemples
que vous avez pris, journalistes également. Donc c'est aussi au final ce qui s'est passé sur le continent européen, asiatique, américain qui a fait ce genre de vote au final en mettant Mané ou Salah en 2, 3 voire plus loin. Pardon, mais si les joueurs, les sélectionneurs, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain, ceux qui
sont censés savoir
affrontent au final pour certains, pas tous évidemment, mais
qui savent qui c'est en plus.
Et qui savent qui c'est et qui affrontent au final ces joueurs-là. Mais si eux, ils ont ce regard là et se disent, attends, désolé, Mané, alors pour les joueurs européens en l'occurrence, moi je l'ai affronté. Et il est exceptionnel et tout ce qu'on veut, mais pour moi c'est Messi ou Cristiano.
Non mais Salim,
on peut peut-être avoir le respect de ce vote-là.
Encore une fois, c'est un problème pour moi de critères parce que c'est the best 2019. Qu'est-ce qui compte, the best ou 2019?
C'est la saison.
Si c'est the best, évidemment, Messi
après,
ou Ronaldo sont les meilleurs, il y a aucun problème. Le plus important, c'est 2019, et je suis désolé,
faut juste
persiste et signe sur la saison, Sadio Mané est au-dessus de Messi, Ronaldo.
Individuellement, surtout collectivement.
À tous les niveaux.
Je voudrais préciser un truc qu'on n'a pas redit, Salim, c'est le 11 type, parce que beaucoup réagissent. Comment ça se fait que dans le 11 type, il n'y a pas, là, ce ne sont que les joueurs qui votent.
Tout à fait.
Il y a que les joueurs.
Exactement.
Et dans le 11 type,
il n'y a pas de sélectionneurs.
Il n'y a pas de joueurs.
Il n'y a pas de joueurs africains.
Si la famille de Jürgen Klopp s'inscrit, peut-être que la famille de Jürgen Klopp, ils sont 600. Ouais. Et ben donc ils vont tous voter pour Jürgen. Donc c'est pas crédible ça par exemple.
Tout à fait.
Parce que là pour le 11 type,
c'est anonyme, donc je peux voter plusieurs fois, je peux prendre plusieurs ordinateurs, plusieurs adresses IP.
Si ça c'est pas les joueurs qui votent pour le 11 type, c'est quand même dingue. Qu'est-ce que Marcelo fait là? Qu'est-ce que Modric fait là?
C'est la réputation.
Voilà,
qui connaît Andrew Robertson chez les joueurs? Pas grand monde. Marcelo, il est connu, ça fait 15 ans qu'il est là
et il est au Real Madrid. Je rejoins Patrick sur un point, c'est que là, il y a eu donc plus de 23 000 joueurs qui ont voté pour le 11 type, en l'occurrence 23 000 joueurs.
Un beau panel
dans le monde, donc c'est beaucoup. Ouais. Sauf que, évidemment, sur les 23 000, peu ont affronté les prétendants à ce 11 type, forcément.
Kimmich ou Robertson, ils n'existent pas.
En Amérique du Sud et tout ce que vous voulez. Et là, pour le coup, c'est plus à ce moment de la notoriété, de la réputation, comme vous l'avez dit, parce que quand on voit Marcelo, quand on voit Ramos, quand je vois Modric qui a fait une saison catastrophique également, là, on se dit que c'est plus sur la réputation que ces joueurs.
Là, le joueur devrait dire, excusez-moi, mais je ne veux pas y être.
Que Kanté il soit pas dans ce 11 type, moi ça me paraît
affolant.
En tout cas, il y a au moins un joueur de Liverpool dans ce 11 type, c'est Van Dijk, qu'on le retrouve quand
Ça serait vu quand même qu'ils étaient nuls, s'il n'y avait pas eu Van Dijk quand même.
il y est. Et puis surtout, meilleur entraîneur de la saison, c'est Jürgen Klopp. Meilleur gardien, Alisson Becker, le Brésilien de Liverpool aussi.
On a favorisé Liverpool, c'est ça?
Voilà.
Qui est aussi logique, c'est que Liverpool, qui gagne la Ligue des Champions, meilleur entraîneur, meilleur gardien, mais pas meilleur joueur.
C'est ça
qui est
absurde.
Qui sera Ballon d'Or dans tout ça? Est-ce que c'est Mané une chance?
Il n'y a que les journalistes qui votent.
Peut-être que ça sera la surprise. Vous y croyez?
Non, croyez pas.
Plus maintenant. Ça paraît compliqué.
Ballon d'Or, ils ont voté.
Oui, mais les collèges sont assez similaires. Ils se recoupent en partie.
On surveillera bien les collèges de nos alliés africains.
C'est que les journalistes, mais c'est pas du tout les mêmes journalistes que celui
qu'a ce collège. Et la date pour voter,
la
fin de vote pour le Ballon d'Or n'est pas encore terminée. Donc, est-ce que ce vote-là va avoir un impact dans la tête en se disant, attends, Messi l'a gagné là, je peux pas revoter pour Messi en 1, je vais peut-être corriger et là plutôt mettre Van Dijk, par exemple, pour qu'il puisse gagner quelque chose. C'est pas.
Ou Sadio Mané.
Un des prix qui nous a plu à Radio Foot, c'est celui du prix du fair play, n'est-ce pas, Olivier? Salim, c'est remis à Marcelo Bielsa. Alors Marcelo Bielsa, on le connaît tous.
Lui, il n'est pas venu.
On l'a beaucoup admiré quand il était à Marseille. il a été. Rappelez-nous les circonstances de pourquoi il a eu ce prix du fair play. C'était dans un match contre Aston Villa.
Tout à fait.
Oui, aujourd'hui promu en première ligue.
Oui, c'est Aston Villa qui a été promu et donc pas Leeds à cause en partie de ce match, puisque donc nous sommes en fin de saison dernière, 1-0 entre Leeds et Aston Villa. Un joueur d'Aston Villa reste au sol suite à une action qui peut arriver. Hein, il reste au sol et là les joueurs de Leeds, alors que ceux d'Aston Villa s'arrêtent quasiment de jouer, ceux de Leeds poursuivent leur action et marquent. 1-0 à ce moment pour Leeds, résultat très important ce 1-0 qui permet à Leeds d'être potentiellement dans les deux premiers du championnat et donc de monter directement en première ligue, moment capital donc, sauf que ce but est contesté par les joueurs d'Aston Villa et là Bielsa dit à tous ses joueurs, les gars on arrête tout, on laisse Villa marquer sur le coup droit, on les laisse marquer. D'ailleurs il y a un joueur de Leeds qui ne comprend pas sur cette action d'ailleurs, qui lui poursuit et ne veut pas laisser marquer. Finalement Aston Villa marque, score final 1-0. Conséquence, Leeds va en barrage et non pas en playoff et non pas en monte directement. D'ailleurs, en barrage, se fait éliminer et ne monte pas en première ligue. C'est pour cette raison qu'il a reçu ce prix du fair play. C'est plutôt sympathique vu le geste qui a été réalisé. Après, je rappellerai que Marcio Bielsa a aussi été condamné, en tout cas il a été reconnu coupable d'espionnage hein, envers un autre club en cours de saison aussi. Ouais. Donc fair play sur cette action, pas forcément de l'autre côté aussi.
Peut-être pour ça qu'il n'est pas venu.
Peut-être pour ça. Bon, il serait pas venu de toute façon.
Lui, comme il lève pas la tête,
lui faire un discours devant des gens.
Non, mais il avait pas de costard.
Du coup, il l'a fait lire.
Il est pas venu.
Bon, et puis on va terminer cette session The Best par bien honneur aux femmes. Les femmes en la personne de la meilleure joueuse capitaine de l'équipe sacrée championne du monde en France à 34 ans, Megan Rapinoe, la joueuse de Seattle, élégante hier soir, n'est-ce pas Olivier, dans sa robe noire.
Quelle teinture de cheveux.
Oui, elle a gardé ses cheveux roses. Et elle n'a pas manqué l'occasion, Megan Rapinoe, on la connaît, on s'en souvient pendant la Coupe du Monde et au retour des joueuses à New York, elle n'a pas manqué l'occasion, encore une fois, de prendre la défense de certaines causes avec aisance et surtout d'appeler à la mobilisation de tout le monde de la planète football.
Je dois vous dire que nous avons une occasion énorme à saisir, nous les footballeurs et footballeuses professionnelles, nous connaissons énormément de réussites financières. Financièrement et autres, il y a énormément de plateformes où nous pouvons nous exprimer et j'aimerais demander à tout le monde, ceux qui sont ici, partager des informations avec les autres, partager vos réussites avec les autres. Nous avons bien plus de possibilités que dans tout autre sport dans le monde. Nous pouvons utiliser ce sport pour changer le monde et améliorer les choses. Donc voilà le message que je voulais vous livrer. J'espère que vous écouterez tout cela sincèrement et que vous agirez. Nous avons énormément de pouvoir dans cette salle, rappelez-vous.
Dominique, et avoir énormément de pouvoir et ne pas s'en servir, c'est un peu ce qu'elle reproche à ses camarades du sport.
Bah, tout le monde va trouver peut-être son discours bien pensant, facile et tout ça.
Ça lui m'avait un petit sourire.
Moi, je trouve ça génial parce que justement, ces cérémonies ronflantes, insupportables, elles sont faites pour que ce genre de discours n'arrive pas. Et donc là, c'est le grain de sable. C'est le truc qui dérape. C'est le truc qui n'était pas prévu par les sponsors.
C'est juste à la fin. Hein.
Pas les sponsors, les caméras, les télévisions,
qu'elle
les
a
pubs.
Pas un cheveu sur la langue.
On le sait qu'elle dit les choses et qu'elle ose. Et franchement, je sais que parmi les hommes, aucun n'aura le courage de dire ça parce que lui, il est soumis à des intérêts économiques, financiers, de sponsoring. Rien contre Messi, Cristiano, Mbappé, tout ça, mais eux ne peuvent pas un peu dire ça. Et oui.
Et ils le disent pas d'ailleurs.
Et ça va être considéré comme de la récupération. Elle, on connaît ses idées, on aime ou on n'aime pas, mais je la sais complètement investie dans son discours. Je sais qu'elle n'est pas là pour jouer, elle n'est pas là pour se donner un rôle. Après, encore une fois, on peut ne pas être d'accord, c'est le principe de la vie. Hein.
Mais elle a dénoncé les actes de racisme, oui, notamment dont sont victimes Sterling et Koulibaly.
Il semble qu'il y a des problèmes actuellement en Arabie, par exemple.
On est immolé par le feu pour avoir été condamné en essayant d'assister à un match en Iran.
Il semble qu'il y a deux, trois problèmes. On était en Italie. Dans le foot italien, par exemple, il me semble qu'il y a deux, trois problèmes d'homophobie dans le foot français. Il me semble qu'il y a deux, trois problèmes comme ça partout. Elle est engagée contre Trump. Elle refuse d'aller à la Maison Blanche. Elle dit les choses. Moi, je trouve que c'est important parce que ce genre de cérémonies sont aussi vues par des gens, des jeunes adolescents, des enfants. Et ça peut leur permettre d'avoir un début de conscience.
Vous devriez l'inviter, Annie.
Elle est intéressante. Encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais elle permet de penser. Le football, c'est pas tous les jours un domaine où on pense.
Patrick.
Non, et puis surtout,
vous pensez?
Non, moi je suis d'accord. Alors bon, Dominique a mis sur le même plan des choses qui, à mon avis, sont pas à mettre sur le même plan. Le problème réel de racisme avec le supposé problème d'homophobie en France, ça je referme juste la parenthèse, je trouve surtout que ce prix-là, pour le coup, est un prix qui récompense vraiment la personnalité qui a le plus marqué le foot féminin sur l'année, à la fois sur le terrain et surtout
par
la dimension qu'elle a donnée au foot féminin en dehors, par ses engagements, par son courage aussi, parce qu'avant de refuser d'aller à la Maison Blanche, elles étaient en fronde contre leur propre fédération. Donc tout ça est vraiment, ça récompense quelqu'un de très structuré, de très réfléchi, d'assez politique. Alors évidemment, comme
très,
qui dit politique dit qu'elle fait pas l'unanimité, mais
et très
au
bonne
moins,
capitaine elle, sur le terrain.
Vraiment la personnalité dominante de cette année de foot féminin. Oui, c'est elle. Et là, pour le coup, le trophée est pour moi incontestable.
Il n'y a pas de hiérarchie dans les délits, Patrick. Hein. Le racisme n'est pas plus grave que l'homophobie.
Je parle de l'ampleur du problème. Je parle pas de la gravité du délit.
Pour moi, si c'est délictuel, c'est délictuel. Quoi.
Salim, un petit mot sur Meghan.
Non, tout a été dit, effectivement. Bon, et Patrick l'a très bien résumé par rapport à Rapinoe. C'est vrai que elle, pour le coup, sur le terrain, elle l'a prouvé avec les sélections américaines. Et puis en dehors, c'est vrai que sa personnalité
ça
a dénoté au final. Donc, au final, elle a marqué le foot féminin de la saison 2018-2019. Donc, c'est pas illogique qu'elle remporte ce titre.
Moi, je suis juste un tout petit peu pas d'accord avec mon pote Dominique. J'aimerais bien qu'un Mbappé ou un Messi ou un Ronaldo ait ce qu'ils ont entre les jambes pour le dire, sans avoir de marketing
bien,
et de choses. Oui, non mais c'est, vous dites ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ont des agents qui leur disent bah c'est dommage. Voilà, c'est dommage qu'ils aient un agent, c'est dommage qu'il y ait tout autour et que si ces gars-là le disaient, ça aurait peut-être un impact.
Ça peut, ça pourrait arriver, mais ce serait plutôt venant de profils plus bad boy à la Cantona ou des joueurs un peu comme ça.
Il ne faut pas que ce soit Blaise Matuidi qui monte contre le racisme en Italie, quoi, parce que c'est trop, entre guillemets. C'est
un petit peu comme certain Gianni Infantino hier a tenté de le faire en italien.
Ça serait bien que ça soit, je sais pas moi, la star du championnat italien, je sais pas, vous mettez qui vous voulez, mais
non.
Cristiano Ronaldo par exemple.
Bon, j'imagine que toutes ces conversations ou certaines reprendront le lendemain du 2 décembre prochain lorsque le Ballon d'Or aura été attribué.
Et là sur le racisme et l'homophobie
vous
aussi, Annie.
Le préfet, on va tous voter pour notre Ballon d'Or, à qui le mettrait-on ici à Radio Foot, et on verra si le trio gagnant est celui qu'on pourrait imaginer. En tout cas, sera le 21 octobre prochain et on y reviendra.
Voilà galette de Kevin De Bruyne, le meilleur passeur de Première Ligue. C'est parti pour Agüero. Sergio, le prédateur, Agüero. Allez, c'est pour lui, c'est pour Mahrez. 100% de réussite. Début de match à Saint-Chinic. Bernardo Silva et de 4. Manchester City affole les compteurs, mais c'est pas possible! Mais où vont-ils s'arrêter? Cinquième but, 17 minutes de jeu!
Jürgen said that Man City is the best team on this planet.
In this planet?
Yes.
In the earth?
Yes, yes.
Wow. Okay, time to conquer the universe.
Traduisez les quelques propos ironiques de Klopp.
Oui. Non, mais on lui demande est-ce que c'est actuellement la meilleure équipe du monde ? Et dit sur la planète, sur la Terre. C'est bien ça, effectivement. Oh oui, non, oui. Enfin voilà, il a une certaine ironie.
Non, il dit alors on part pour un combat l'univers.
Oui, c'est ça.
On part à la conquête de l'univers, donc c'est assez ironique et assez drôle en même temps. Alors où vont-ils s'arrêter à 5-0 ? Se demandait le commentateur. Eh ben ils sont arrêtés à 8-0.
C'est ça.
Mais ce qu'on retient. On a retenu que 5 buts parce que c'est un record en Première Ligue et c'est donc un record qui revient aux Citizens, dont avec cet exploit de marquer 5 buts en 18 minutes. C'est David Silva donc qui avait ouvert le score à la première minute et à la 18e, c'était Nicolas Otamendi, hein, comme quoi même un défenseur peut rentrer dans ce registre des records. C'était Manchester United qui avait marqué le plus de buts une fois sur un match, mais c'était il y a déjà fort longtemps.
95, non ?
Voilà, et c'était face à Ipswich. Alors, est-ce que Manchester City, pour vous, a accompli un exploit énorme ? Aussi énorme que la stat.
Disons que le contexte faisait qu'il fallait attendre et s'attendre à un gros truc de la part de City. Contexte, j'entends, la semaine passée, il y avait une défaite face à Norwich, 3 buts à 2. Dans la semaine, il y a eu une belle victoire face à Donetsk 3-0. Et donc, au final, on attendait cette réaction post-Norwich. Donc, on se disait, Watford était peut-être la victime idéale pour réussir cela. Watford qui vient de changer d'entraîneur, enfin, il y a deux semaines, qui sortait d'un nul courageux, mais un nul simplement face à Arsenal malgré tout. Et qui, défensivement, on le sait depuis le début de saison, va pas forcément très bien. Donc, potentiellement, en tout cas, il y avait les ingrédients qu'il fallait pour que City puisse gagner et gagner assez aisément. Après, je vous l'accorde, 5 buts au bout de 18 minutes, j'avais pas misé là-dessus, hein, très sincèrement. Mais dans cette partie, il y a eu plusieurs choses aussi. Il y a eu aussi un De Bruyne qui a été hors norme, enfin stratosphérique, on pourrait utiliser tous les termes, galactique en tout
un
cas.
Un autre joueur qui est absent pour du 11 de l'année d'ailleurs.
Oui, après cette saison, pour le coup, il n'a pas forcément été très bon, puisqu'il a été surtout blessé, De Bruyne. Mm-hmm. Mais De Bruyne, donc en pleine forme. Bernardo Silva, il entre et il met son petit triplé, normal. Riyad Mahrez également, enfin bref. Tout a été mis en place pour que City réussisse un exploit. Et au final, l'exploit a été réalisé.
Alors, exploit, mais en tout cas, on a des Citizens qui sont quand même toujours à 5 points derrière Liverpool.
Bah oui, une défaite de plus.
L'année dernière, ils ont été à 7 points, ils ont réussi à les coiffer sur le poteau. Ouais, mais bon.
Liverpool, quand même, qui reste sur 23 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, qui paraît totalement comme un rouleau compresseur, même quand ils sont un peu moins bien.
15 victoires consécutives.
Même quand ils sont, qu'ils ont même des temps faibles assez importants, ils gagnent toujours. Ils sont implacables. Et c'est un peu j'ai l'impression que Manchester City a besoin de bien jouer pour vraiment gagner. Alors que Liverpool arrive à gagner même en jouant mal. Et ça, c'est quand même très bon signe pour cette équipe. Après, il y a deux facteurs. Effectivement, Salim a dit le premier, c'est la faiblesse de Watford et la difficulté dans laquelle est ce club qui avait fait une bonne saison.
Ah, oui, très bonne.
Très bonne saison. Ils étaient aux portes vraiment du top 5 pendant longtemps.
Oui,
et ils n'étaient pas loin même pouvoir accrocher la Ligue des Champions. Ils ont un peu fléchi. Et là, ils sont sur un très mauvais cycle. Et puis le deuxième, c'est quand même, en plus de la qualité de jeu extraordinaire, la fluidité incroyable de cette équipe, c'est aussi tout de même de la réussite. Alors elle se provoque, mais il y a eu quand même des petits facteurs X qui ont fait qu'on est passé d'un score fleuve à un score hors norme.
Dominique, c'est Citizen.
Ils avaient combien de points de retard l'année dernière
7. Le plus, ça a été 7. On a cherché tout à l'heure.
Au Boxing Day, hein, c'est ça. Donc, bon, ils sont pas...
Rien n'est fait.
Kunagüero est déjà à 8 buts quand même. Hein, ça, il faut le souligner. Il
8 buts en 6 journées.
8 buts en 6 journées, donc c'est pas mal. Après, je vais me contredire peut-être avec ce que j'ai dit sur Messi, mais c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est de marquer des buts. Après, je trouve pas 5 grands défenseurs dans ce championnat. Il y a Van Dijk, et après, on ne sera pas d'accord pour en trouver 5. Pour moi, David Luiz à Arsenal n'est pas un grand défenseur.
Ah non,
Socrates n'est pas un grand défenseur. Donc voilà, on va avoir du mal à en trouver 5.
Kolasinac, non.
C'est donc, ça facilite les cartons.
Après, l'année dernière, pareil, il n'y avait pas des grands défenseurs aussi. Ils ont été au final 4 clubs anglais en finale de Coupe d'Europe. Donc ça, c'est pas gravissime. Non, ça permet au final d'ouvrir et d'avoir plus de buts.
Je pense que si vous comptez les. Et ensuite, ce que je veux dire, c'est que mettre 8 buts, alors que j'ai dit que mettre des buts, c'est ce qui est le plus difficile, c'est peut-être pas si difficile que ça dans le championnat anglais.
Oui, face à certaines équipes. Watford, on est l'exemple, là je vais pas le nier.
Ça dépend si on compte les latéraux. Parce qu'effectivement, les défenseurs centraux, ils sont pas pléthores.
Totalement.
De très bons, les latéraux, il y a de la qualité en première ligue.
Oui. Alors ceux qui sont inquiétants à nos yeux, eh bien ce sont les Red Devils, hein, 8e au classement avec 10 points de retard, battu 2-0 par les Hammers, ça a dû vous
c'était
faire
prévu, je, hein, vous l'ai dit, hein, je l'ai dit hors antenne,
les marteaux.
C'était sûr.
Les marteaux ont frappé et un bilan eh bien en 6 journées de défaites pour seulement 2 victoires. Alors c'est surtout l'attitude des joueurs, on va y venir, qui suscite la polémique, mais évidemment qui concentre les critiques, eh bien c'est l'entraîneur. Beaucoup critiqué, ça va peut-être vous faire sourire, mais beaucoup par José Mourinho, à qui Ole Gunnar Solskjaer a répondu.
Il est évident que quand vous perdez une rencontre, vous êtes déçu. On pouvait gagner comme on pouvait perdre. C'est comme ça quand on joue à l'extérieur en Première Ligue. Je m'attendais à un tout autre résultat contre West Ham. Mourinho a le droit d'avoir sa propre opinion. Bien sûr, nous avons perdu ici la saison dernière. C'est toujours un terrain difficile et nous espérons faire mieux que ce que nous avons fait. Ils ont frappé à des moments clés du match, 2 buts fantastiques du gauche, et nous n'avons tout simplement pas saisi nos chances quand il le fallait.
Salim, est-ce que quand Mourinho se moque de Solskjaer, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité?
En partie, parce que au final, il y a une bonne partie des joueurs qui était ce week-end présent sur le terrain que Mourinho avait quand même.
Et donc, puis Mourinho, il n'avait pas que des victoires.
Ole Gunnar Solskjaer le disait, il avait perdu 3-1 la saison dernière à West Ham. Donc bon, il ne peut pas se permettre non plus de critiquer ainsi. Après, Ole Gunnar Solskjaer a voulu, et c'est lui-même qui, en tout cas, ou certains de ses joueurs qui expliquaient qu'il y avait un changement depuis l'arrivée de Ole Gunnar Solskjaer, en tout cas en cours de saison dernière.
Le PSG l'a vu à ses dépens.
Notamment.
Et ça n'a pas duré longtemps.
Qui a eu cette sensation-là, etc. Et au final, aujourd'hui, au moment où nous parlons, on ne voit plus rien. Et aujourd'hui, on dit même clairement que Solskjaer pourrait être un PPH, voire un PPA, ne passera pas l'hiver, voire ne passera pas l'automne. Tellement aujourd'hui, Solskjaer est critiqué, on le voit clairement, dans les prochaines semaines, être licencié. Il y a United-Arsenal lundi prochain. Les deux clubs vont pas forcément très bien, mais Arsenal semble aller un peu mieux malgré tout. Si Arsenal vient à s'imposer à Old Trafford, ça pourrait être un cataclysme à United, vraiment.
Dominique,
c'est
entraîneurs.
Bah oui.
L'attitude des joueurs a aussi été. Alors il y a un certain Phil Jones pardon, qui a dit si Pogba partait de Manchester United, ce serait pas une grande perte.
Oui, enfin.
Il a voulu partir cet été.
Ouais, oui, déjà. Et puis encore une fois, il est pas là sur le terrain là en ce moment. Il était pas là face à West Ham. Et pourtant les joueurs ont été nuls. Il était pas là lors du match précédent. Ils ont gagné contre Leicester, mais ils étaient pas bons aussi.
C'est le phénomène des vases communicants, c'est-à-dire que le PSG est en train de se remettre un petit peu de son élimination. De son traumatisme. Enfin, il est en train de sortir de 6 mois de dépression, de son élimination le 6 mars contre Manchester. Et pendant ce temps-là, Manchester lui plonge alors qu'il a flotté sur cette qualification miraculeuse qui a valu à Solskjaer d'être prolongé. Alors qu'il est pour rien dans cette victoire 3-1 au Parc. C'est pas Manchester qui a gagné, c'est le PSG qui s'est effondré mentalement ce jour-là.
Enfin, il y est quand même, pardon, un peu pour quelque chose donnant aux joueurs l'envie d'y croire. Même après le match aller, ce qui est déjà quand même un mérite.
Tu peux pas savoir que Kimpembe va faire cette main-là.
Oui, mais c'est un mérite psychologique d'un entraîneur de faire penser à ses joueurs que l'impossible est possible. Moi, je pense que Solskjaer a fait du bien quand il est arrivé parce que les joueurs, le vestiaire en avait marre de Mourinho qui avait usé tous les cadres et tous les joueurs de l'équipe et il a donné un petit ballon d'oxygène à cette équipe qui a quand même des joueurs de qualité il a fait quelques choix qui ont été payants et maintenant il n'arrive pas à trouver le second souffle. Pourtant, des recrues sont arrivées cet été qui sont intéressantes mais il n'arrive pas à réordonner tout ça.
La presse en tout cas est tombée sur Solskjaer le lendemain. Le Daily Mail écrivait le pire Manchester United depuis 30 ans. Daily Mirror écrivait c'est tellement mauvais que c'est effrayant. Et le Times, c'est un recul à chaque match avec cette équipe.
Ils ont oublié l'époque Moises qui a succédé, le premier à avoir succédé à Sir Alex. Mais c'est un club qui est quand même perdu depuis que Sir Alex n'est plus l'entraîneur. C'est quand même un club où il y a eu...
C'est un peu ça, effectivement.
Van Gaal.
Comme le Real et le départ de Cristiano, là, c'est Manchester et le départ de...
Van Gaal, c'était affreux. Mm-hmm. Mourinho, finalement, ça a été un long...
Il a quand même gagné l'Europa League.
Mais... Oui, mais ça a été un peu pénible.
Il y avait eu David Moyes, en fait, avant, comme vous en parliez.
Solskjaer, on sent que ça va pas durer très très longtemps.
Et donc cette petite aparté qui a été filmée par des portables, Salim, entre Phil Jones et Woodward.
Comme quoi, vous voyez, ça m'a échappé.
Il y en a un qui dit à l'autre, ça y est, virez demain, et l'autre qui dit, arrête, on est filmé.
Oui. celle-là, je reconnais humblement, elle m'avait échappé cette séquence. C'est très étonnant. Mais effectivement, Woodward, vous ne pouvez pas se permettre effectivement de dire ce genre de choses, surtout que United vient officiellement de communiquer ces dernières heures.
Exactement.
Le fait que United passait officiellement le milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui était une première dans l'histoire du foot moderne d'avoir un club qui
pense. Moi j'avais 700 millions, mais
700
bon.
Millions. Moi j'avais 700 millions. J'ai vu la dépêche
de chiffre d'affaires.
En euros, pour le coup.
Peut-être.
De chiffre d'affaires.
Ça fait 700 millions de livres. Non, il me semble qu'on a vu la même, Annie, ça me rassure.
Il me semblait que c'était 700 millions d'euros pour l'exercice.
C'est beaucoup d'argent.
En tout cas, c'est un progrès du chiffre d'affaires de 6%, un peu plus de 6% en un an.
C'est un club où la marque est plus importante et plus belle que l'équipe.
Sur les trois dernières années, il n'y a qu'une seule participation en Ligue des Champions.
Mais ils craignent que ça n'aille mal. Un petit tour par Chelsea avant de terminer en beauté du côté d'Arsenal avec une éclaircie. C'était face à Liverpool. Alors, ils sont 11e les joueurs de Chelsea, effectivement, mais ils ont le même nombre de points que Manchester United et on a l'impression donc qu'il peut y avoir des éclairs de génie. Azpilicueta seeing more and more of the ball on the right hand side for Chelsea. Conte drives towards that penalty area. What a goal by N'Golo Kanté!
virtuoso step from the Frenchman. A weaving run and a clinical finish into the top corner. And with 20 minutes remaining, Chelsea are back in it. Chelsea 1, Liverpool 2.
Un petit mot sur ce Chelsea, il vous effraie.
En fait, il y a deux manières de voir les choses.
Parce qu'il y a un patron qui a disparu. Ils n'ont pas eu le droit de recruter. Mm-hmm. Ils ont puisé donc chez les jeunes. Mm-hmm. Et il y a quand même un entraîneur emblématique qui est Lampard.
Et le patron qui a disparu, c'est Hazard ?
Et non, c'est Abramovich.
Abramovich. C'est bel et bien Hazard.
Je pense à Abramovich, d'accord. Mais il y a les deux. Oui.
Abramovich est toujours dans le camp officiellement. En tout cas, le jeu est là. Ça, c'est vrai qu'on prend du plaisir à regarder Chelsea. Il y a des opportunités, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est Lampard qui a voulu imprimer cette manière de faire. Très bien. Le problème, c'est que aujourd'hui, il y a un déséquilibre qui existe à Chelsea où on attaque beaucoup et au final, on ne défend pas forcément très bien. Et puis, vous l'avez très bien dit, il y a surtout beaucoup de jeunes désormais. En tout cas, on a dû intégrer des jeunes et des jeunes.
Parce qu'on ne peut pas recruter.
On ne peut pas recruter. Donc, ces jeunes-là, ils doivent aussi s'y habituer pleinement. Quand vous avez le jeune Tomori qui a pris la place de Kurt Zouma, oui, Kurt Zouma qui au final, qui devait être normalement le titulaire indiscutable, qui au final ne l'est plus désormais puisque c'est Tomori qui a pris sa place. Tomori, c'est un jeune qui a besoin de temps encore. Quand vous avez Tomori et Christensen en défense centrale, forcément c'est pas gage de sécurité pour cette équipe de Chelsea qui a déjà pris 13 buts en 6 matchs.
Terminons par les Gunners. Hein, Olivier, on avait repéré ces Gunners. On voulait donner un coup de chapeau et bien à Pierre-Emerick Aubameyang.
Il vote mal pour le prix de best, mais au moins il joue bien. Il laisse Pépé marquer.
Il a des stats incroyables, on va y venir. Mais surtout, il est sympa en plus, Pierre-Emerick Aubameyang. Écoutez son entraîneur, un certain Unai Emery.
Un ami.
Accordé à l'Africain international ivoirien Nicolas Pépé qui a inscrit son premier but pour Arsenal.
Guendouzi dans un numéro soliste, pénalty évidemment. Et oui, le pénalty provoqué par Matteo Guendouzi, voilà.
It is Nicolas Pépé, a chance for his first Arsenal goal. And he takes it. He needed that.
Ça, c'est le collectif d'Arsenal. C'est juste un pénalty, mais c'est donné un ballon de but et un ballon de confiance à un garçon qui en a extrêmement besoin, Nicolas Pépé.
Et Aubameyang, le responsable to shoot penalty.
Normalement, c'est Aubameyang qui est notre tireur de penalty avec Lacazette. Et je trouve que Pierre-Emerick a pris une très grande initiative en laissant tirer Nicolas Pépé avec l'idée de lui donner confiance et la possibilité de marquer. C'est lui seul qui a pris cette responsabilité et quand je l'ai vu, j'en ai été très heureux. Aubameyang est un joueur qui a toujours envie de marquer, de gagner, d'atteindre des objectifs individuels et collectifs. Cette décision montre donc à quel point il est un très grand joueur.
As a great player.
Un joueur qui a inscrit un coup franc génial donc contre Aston Villa à la 84e minute hein, et qui a marqué, il a marqué 16 buts lors des 16 derniers matchs. Ralph Samory avait bien regardé les statistiques aujourd'hui, 48e but en 72 matchs avec Arsenal.
Oui, Aubame, il est
Arsenal qui est bien classé, Olivier.
Oui, Arsenal qui est, alors, c'est assez regroupé encore une fois. On a Liverpool à 18 points, City est 13, et on a Leicester, Arsenal, West Ham qui ont 11 points, Bournemouth 10, et puis derrière, les équipes dont on vient de parler, il y a quand même 6 équipes qui ont le même nombre de points, qui ont 8 points, Chelsea, Crystal Palace, Sheffield, Burnley, Manchester United et Tottenham. C'est un championnat assez étonnant quand on regarde le classement là pour le moment.
Et Arsenal grâce à Aubameyang.
Oui, Aubameyang, et vous l'avez très bien évoqué, entre son but marqué, l'importance de son impact en tout cas en attaque, surtout que Lacazette est blessé hein, donc c'est vraiment sur lui que les responsabilités incombent. Et puis vraiment ce geste de laisser le ballon à Nicolas Pépé pour qu'il marque son premier but, voilà, c'est tout ce qu'il fallait, j'aimerais dire, pour permettre à Arsenal de gagner, parce que surtout que ce match était délicat hein.
Bah, ils ont mal commencé, ouais.
Ils sont menés par Aston Villa, il y a un rouge pour Arsenal avec Maitland-Niles qui est exclu, donc à 11 contre 10 ils réussissent à égaliser grâce à Pépé, ils prennent un deuxième but dans la foulée et malgré tout ils réussissent à marquer deux buts. Ça, c'est le genre de victoire qui va compter, c'est sûr.
La prochaine étape, c'est de gagner dans les grands matchs.
Pourquoi pas contre United la semaine prochaine? Après, United Arsenal, est-ce encore un grand match?
Mais oui, c'est la question, bonne question de ça.
En tout cas, quand c'est Liverpool, ils perdent.
Oui, en tout cas, c'est plus une grande équipe. Hein.
Ça, c'est sûr.
c'est ce qu'on peut se demander, mais en tout cas, ils sont quatrièmes pour l'instant.
Mais
c'est
attractif. Hein,
ne vous inquiétez pas, Arsenal sera dépassé par West Ham bientôt, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez
pas.
Évidemment.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous d'y avoir participé. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer cette émission avec Pierre Guérin. Et puis donc Ralph Samory et Laurent Salerno à la réalisation aujourd'hui. Et on vous dit tous à demain.